Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
À la une de l'actualité de la mi-journée éliminatoire Cannes 2024, Hubert Velud a dévoilé ce matin sa liste pour la double confrontation contre le Togo. Bernabé Cabré viendra nous donner des précisions dès le début de ce journal. Lutte contre le terrorisme au Burkina. Des ressortissants du Namatenga dans le centre nord appellent les autorités à l'aide. Ils réclament une base militaire dans la zone. L'art est au-dessus de tout. Le ministre de la Culture réagit après la polémique autour de l'étalon d'or décerné au Tunisien Youssef Chebbi. FESPACO 2023 toujours, on en parle avec notre invité, le critique de cinéma Abraham Bailly, pour qui le jury a fait un excellent travail. Interview à suivre en fin d'édition.
Oméga Sport.
On commence ce journal par le sport. Le sélectionneur national des étalons, Hubert Velud, a dévoilé ce matin la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Togo, entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Pour en parler avec moi, Bernabé Cabré. Bonjour Bernabé.
Et bonjour Brigitte et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, quelle est l'ossature de l'équipe nationale?
Il faut déjà retenir qu'il y a deux nouveaux dans la liste d'Hubert Velud. Dramane Kambou, qui évolue au Rai Club du Kadiogo, et Nassim Innocenti, qui évolue en Valenciennes, en Ligue 2 française. Deux joueurs également du championnat burkinabé, Dramane Kambou du RCK et Valentin Nouma de l'AS Douane. Il avait déjà été convoqué Nouma lors des précédents matchs. Et comme nouveauté, il y a aussi le retour de Franck Lassina Traoré au sein de l'écurie. Franck qui n'avait pas été convoqué lors des derniers matchs. Il avait demandé du temps au coach, le temps de mieux reprendre la compétition en club. Pour le reste, pas de changement. Trois gardiens de but, Hervé Kofi, Kylian Ikiema et Hillel Konaté. Huit défenseurs, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo, Valentin Nouma, Steve Iago, Issa Kabore de l'Olympique de Marseille, Abdourazak Ghebré qui évolue à Regina en 3e division italienne, Nassim Innocenti et Adamo Nagalo qui évolue au Danemark. Sept milieux de terrain, Gustavo Sangaré, Blati Touré, Dramane Kambou, Cédric Badolo, Aziz Stéphane Ki, Trova Boni qui évolue à Belenenses en 2e division au Portugal et Adama Gira qui vient de s'engager avec le Racing Rioja en 4e division espagnole. 6 attaquants, Bertrand Isidore Traoré, capitaine, Franck Lassina Traoré qui signe son retour, Dango Ouattara, Mamadi Alex Bangré qui évolue à Cuvelu-Rouen en France, buteur d'ailleurs ce week-end, Abdoul Fessal Tapsoba du Sheriff Tiraspol et Cyril Bayala. Voici donc la liste des 24 joueurs convoqués par le coach Hubert Velud.
Bernabé, et de cette liste d'Hubert Velud, parmi les nouveaux, Nassim Innocenti, pas connu du public.
Oui, c'est peut-être la première fois que beaucoup entendent son nom. Nassim Innocenti, c'est un joueur qui est né en février 2002 à Bobo-Dioulasso. Il a donc 21 ans. Il est défenseur central de formation, mais il peut évoluer au poste de latéral à gauche. Il a grandi en France. Il a plusieurs fois été convoqué avec les moins de 16 ans et les moins de 19 ans de l'équipe de France. C'est au centre de formation de l'Olympique lyonnais que Nassim Innocenti a été formé. Il va rejoindre à Lille en 2018 pour 3 ans. En manque de temps de jeu, il quitte Lille pour rejoindre Valenciennes en 2e division française. Et depuis son arrivée en juin dernier, il a joué 11 matchs, dont 6 comme titulaire. Nassim Innocenti a fait quelques apparitions également avec l'équipe réserve de Valenciennes.
Alors Bernabé, quel est le programme des matchs?
Le 24 mars à 19h au Grand Stade de Marrakech, le Burkina Faso recevra donc le Togo pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui va se jouer en 2024 bien sûr. Et le 28 mars à 19h au Stade de Kégué de Lomé, le Togo de Paolo Duarte recevra cette fois-ci le Burkina Faso pour le match retour et pour le compte de la 4e journée. Et on rappelle Brigitte que le Burkina est leader de son groupe avec 6 points, le Cap-Vert est 2e, 3 points, l'Eswatini et le Togo ferment la marche avec 1 point chacun.
Alors les étalons ne pourront pas jouer à Ouagadougou?
Peut-être pour le compte de la 5e ou 6e journée. En tout cas, les travaux sont toujours en cours au stade du Katou de Ouagadougou.
Bernabé Cabré, merci pour toutes ces informations. terrorisme au Burkina après les ressortissants du Nayala dans le Sourou et ceux de Partiaga dans la Tapoa. C'est au tour des ressortissants du Namantenga d'alerter sur la situation sécuritaire dans la région du Centre-Nord au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Ils ont indiqué samedi que les populations sont chassées, plusieurs villages se sont vidés. Les fils de la province lancent un cri de cœur aux autorités pour redonner un souffle aux populations. Pierre Badolo pour le compte-rendu.
La province du Namantenga a subi plusieurs attaques terroristes dont les premières remontent au 24 février 2022 et la plus récente en février dernier. Les 8 communes de la province ont chacune été attaquées. Depuis lors, les populations de plusieurs villages se sont déplacées vers Boulsa dans des conditions humanitaires déplorables. Face à la multiplication des attaques dans la province depuis maintenant un an, le mouvement des forces vives de la province face à la presse lance un cri de cœur à l'endroit des autorités. Ousmane Korogo, secrétaire général des forces vives du Namantenga.
C'est l'évolution dangereuse de la situation ces dernières semaines qui nous a conduits devant vous ce matin. Si la situation est nationale, il existe des épicentres de l'insécurité et notre zone en est un. Toutes les 8 communes que compte la province du Namantenga ont été touchées par les attaques terroristes. Aujourd'hui, on dénombre plusieurs centaines de personnes déplacées internes. Une crise humanitaire sans précédent s'abat sur plusieurs personnes qui dorment sous des arbres et des halls de boutiques et des édifices. Depuis janvier 2023, les menaces sont devenues quotidiennes dans les villages de Belga, Tanguin, Touguin, Poli. Le 24 et le 26 février 2023, plusieurs villages sont sommés à déguerpir de leur localité avec un ultimatum. Ce fut un sauve qui peut, une course contre la montre, une débandade généralisée de plus de 10 villages qui ont convergé vers la ville de Boulsa.
Le mouvement Force Vive du Namantenga souhaite qu'une base militaire soit installée dans la localité pour appuyer les volontaires pour la défense de la patrie VDP dépassée par la situation. Ousmane Korogo.
Oui, nous voulons et le Namantenga mérite un détachement militaire. Notre plaidoyer à l'endroit du gouvernement, en plus du détachement militaire, reste le rétablissement de l'électricité, de l'eau et les téléphonies mobiles en vue de donner vie aux économies locales. La sécurisation de la RN numéro 3 pour faciliter le trafic et le transfert des malades.
Elie Dabilgou, membre du mouvement des forces vives du Namantenga.
Quand vous prenez Boulsa, vous traversez Zéguedéguin pour aller à Tougouri, vous pouvez faire pratiquement 4 heures. Vous prenez Boulsa pour aller à Piela, Darbo, Piela, Bougandé, c'est une voie impraticable. Donc, vous conviendrez avec moi qu'une base à Boulsa permettrait de faire un tampon.
La province du Namantenga est située dans le centre-nord, une des régions du Burkina les plus touchées par le terrorisme. Plusieurs attaques ont été perpétrées dans cette partie du pays. Malgré la situation, les fils et filles du Namantenga disent rester solidaires et engagés derrière le président du Faso jusqu'à la victoire finale.
Toujours dans la province du Namantenga, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a dénoncé dimanche à travers un communiqué l'enlèvement et la torture de Moussa Kafondo alias Mogambo par des membres de la milice Kogluego de Boulsa, tout en condamnant le CIS qu'appelle l'État à agir. Abdoulkader Konaté.
Dans son communiqué, le CISC a expliqué que l'alerte est partie de la diffusion sur les médias sociaux d'une vidéo montrant des tortures et des traitements inhumains subis par M. Kafando, commencés il y a 48 heures. Dans laquelle vidéo, on aperçoit Moussa Kafando en sous-vêtements, par moments mains liées ou enchaînées. On le voit également couché inerte au sol avec les mains liées au dos et subit plusieurs autres maltraitances physiques. Le collectif, dirigé par Daouda Diallo, a identifié Bourema Nadbanka, alias Namende, membre de la milice Kogluego de Boulsa, comme l'auteur de ces actes. Selon le CISC, Moussa Kafando avait dénoncé la dégradation de la situation sécuritaire qui serait liée à l'action des membres de la milice Kogluego de Boulsa, prétendument aux ordres de Bourema Nadbanka, alias Namende. Des membres du groupe d'autodéfense seraient ensuite allés enlever Moussa Kafando à Zorgo pour l'amener, les mains et les pieds liés, dans leur base à Boulsa, à en croire le collectif. Le collectif contre l'impunité condamne avec fermeté ces actes criminels et fait appel à l'état de droit pour inviter les autorités judiciaires et sécuritaires à interpeller les auteurs de ces actes. D'autant plus que l'accusé bénéficie d'une liberté provisoire depuis le 4 février 2020 dans le cadre de la procédure judiciaire du massacre de Yirgu. Tout en réaffirmant son soutien indéfectible à la famille de Moussa Kafando, le CISC dénonce la présence d'anciens bandits et de criminels non repentis au sein de certaines milices armées et appelle le président de la transition, Ibrahim Traoré, à s'impliquer pour un recadrage.
La 28e édition de la fête du cinéma africain a refermé ses portes ce week-end avec le sacre du Tunisien Youssef Chebbi. Rendez-vous est pris en 2025 pour la 29e édition du FESPACO. Bien avant, l'heure est au bilan et il y a de grands motifs de satisfaction, assure le ministre en charge de la culture. Chiffres à l'appui, écoutez Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il était reçu aux 20h de la télévision nationale hier.
À chaud, on peut retenir déjà quelques chiffres. Près de 37 000 cinéphiles, plus de 10 000 festivaliers accrédités venant d'une cinquantaine de pays du monde, 1328 journalistes, 2400 professionnels, 507 stands au marché international du cinéma africain, mais également, bien sûr, dans les autres rues marchandes, et surtout, un succès populaire tant à l'ouverture qu'à la clôture et tout au long de la semaine du festival. Au lendemain de la clôture de ce festival, nous devons traduire toute notre reconnaissance, mais aussi nos félicitations au comité national d'organisation, à toutes les commissions et surtout en particulier à la commission sécurité, parce que nos forces de défense et de sécurité ont assuré la sécurité de tous les festivaliers. Il est également important de saluer la chaleur de l'accueil qui a été réservée par tous les citoyens burkinabés. Et je pense que la réussite de ce FESPACO-là vient aujourd'hui donner des motifs d'espoir à l'ensemble de la population. Et je pense que ce FESPACO a prouvé aux yeux du monde que le Burkina Faso est un pays aujourd'hui qui reste debout.
Les talents d'or remportés par le Tunisien Youssef Chebbi avec son film Ashkal. Vous avez certainement lu les réactions de certains internautes suite au sacre du film tunisien à cette 28e édition du FESPACO après des propos racistes du président tunisien Kaïs Saïed et des violences perpétrées contre les migrants subsahariens. Beaucoup d'internautes estiment qu'il ne fallait pas décerner le Yenenga d'or à un Tunisien. Pour le ministre de la Culture, l'art est au-dessus de tout et ce prix devrait donner à réfléchir en Tunisie. Écoutez une fois de plus Jean-Emmanuel Ouédraogo au micro de nos confrères de la RTB.
Oui, effectivement, on a vu les réactions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'art est au-dessus de tout cela. Et ce prix, cet étalon d'or de Yenenga, donc à un réalisateur tunisien, de notre point de vue, est plutôt un très beau pied de nez à tous ceux aujourd'hui qui font l'apologie de la haine en Tunisie. Et je pense que, et je l'espère, que ça devrait donc leur donner à réfléchir pour comprendre que ceux qu'ils appellent donc des Africains subsahariens ne sont pas les ennemis des Tunisiens, mais également que les Tunisiens ne sont pas les ennemis de ceux qu'ils appellent les Noirs subsahariens, et que tous ensemble, nous avons intérêt à travailler à ce qu'il en soit ainsi, parce que l'apologie de la haine ne fera le bonheur de personne.
Toujours à propos du sacre du Tunisien, selon l'ancien ministre de la Culture, Abdoulkarim Sango, ses réactions sont compréhensibles sur le plan émotionnel, mais ne sont pas raisonnables. Il était l'invité de votre émission Dimanche Politique hier matin.
Le jury est indépendant. Et c'est important de savoir que là où la politique divise les gens, mais la culture est le seul élément qui permet de fédérer, qui permet d'unir, qui permet de mettre les gens ensemble au-delà de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques. Il faut se battre pour que la culture reste ce ferment-là qui permet d'unir les uns et les autres. C'est triste, c'est dramatique, c'est révoltant, c'est écœurant ce qui se passe en Tunisie. Mais n'oublions pas que le réalisateur, il ne représente pas l'État tunisien. Il est de nationalité tunisienne. Parce que le principe des films, c'est que chaque réalisateur apporte son œuvre. Ce n'est pas comme en football ou dans d'autres domaines. Lorsque vous partez en Coupe du Monde, vous représentez votre État. C'est ça la grande différence.
Votre émission Dimanche Politique est disponible sur notre page Facebook officielle Radio Omega.
La revue de presse.
La 28e édition du FESPACO est largement commentée par les quotidiens du jour. Si l'Express du Faso rappelle que le FESPACO est l'une des plus grandes tribunes de professionnalisme et de transparence, le quotidien lui lance un appel à nos réalisateurs et à l'ensemble de l'industrie cinématographique burkinabé, celui de se réinventer pour faire face à la concurrence. La revue de presse de ce lundi 6 mars, c'est avec Alinta Ouedraogo.
À la une des quotidiens du jour, la 28e édition du FESPACO qui a refermé ses portes samedi dernier. L'or pour la Tunisie et l'argent pour le Burkina Faso, titre à la une le journal Le Pays. Malgré tout, l'étalon de Yenenga a migré en Tunisie, titre l'Express du Faso, selon qui Apolline Traoré, que beaucoup d'observateurs sans doute peu professionnels dans le domaine du cinéma, attendait à la première place, va se contenter de la deuxième place avec l'étalon d'argent. Toutefois, le quotidien Bobolais rappelle que le FESPACO est l'une des plus grandes tribunes de professionnalisme et de transparence dont beaucoup de pays, d'institutions et même de gouvernements peuvent s'inspirer. Au-delà, l'Express du Faso alerte les cinéastes africains dont le rôle est capital dans la conscientisation des peuples et le changement de comportement a joué pleinement leur part de contribution. Car le renouveau auquel aspirent les peuples africains doit être compris par eux, mis en scène et diffusé tant en Afrique qu'à travers le monde. D'autant plus que la réalité du terrain montre que c'est parce que l'Afrique n'a pas toujours su valoriser ses propres valeurs de développement endogène, de solidarité et de fraternité qu'elle est à la traîne. Il y a d'ailleurs nécessité de transformer le cinéma burkinabé en industrie, s'exclame le journal Le Quotidien. Si en 2025, cela fera 28 ans que le Burkina Faso caresse le secret espoir d'un nouveau sacre dans la catégorie la plus prestigieuse, c'est parce que les films burkinabés ont beaucoup baissé en termes de qualité, mais aussi que les financements sont de plus en plus rares dans le domaine du 7e art burkinabé. Alors Le Quotidien lance un appel à nos réalisateurs et à l'ensemble de l'industrie cinématographique burkinabé, celui de se réinventer pour faire face à la concurrence, comme cela se fait dans d'autres pays tels que les États-Unis avec Hollywood, l'Inde avec Bollywood ou encore le Nigeria et son Nollywood. L'industrie cinématographique burkinabé doit tendre vers ce modèle afin de générer les ressources nécessaires pour son autofinancement. En d'autres termes, le FESPACO doit se transformer en centre commercial du cinéma africain. Ce n'est qu'à ce prix que le cinéma burkinabé et africain pourra survivre aux intempéries et autres péripéties du secteur, conclut Le Quotidien.
L'invité du jour. L'invité du jour.
FESPACO 2023, on en parle encore avec notre invité du jour. Il s'agit du critique de cinéma Abraham Bailly, pour qui le jury a fait un excellent travail. Joint au téléphone par Judith Traoré, il commence par donner son appréciation générale sur la qualité des œuvres présentées cette année.
Bonjour Abraham Bailly, le FESPACO 2023 a refermé ses portes le week-end dernier. Quelle appréciation générale faites-vous de la qualité de la sélection officielle cette année?
C'est vrai que depuis le mois de janvier, on avait la sélection officielle de ce FESPACO 2023. Pour moi, je trouve que ce sont des films de qualité qui ont été proposés au public. On a eu des premières à ce FESPACO, contrairement au FESPACO de l'édition dernière où la catégorie section sur le long métrage, il n'y avait pratiquement pas de films. Toi, Lascar, qui était le seul film qui était le film inédit, qui a fait sa première au FESPACO. Mais cette année, beaucoup de films ont fait leur première au FESPACO. Donc, c'est la preuve que le festival est un festival d'envergure nationale et internationale. Moi, je salue vraiment cette sélection. Deuxième force dans cette sélection, c'est le fait qu'on retrouve l'Afrique en miniature dans la sélection. Vous avez le retour de l'Angola et du Mozambique. Vous avez le Nigeria qui revient, l'Afrique du Sud qui revient. Vous avez même la République dominicaine qui vient pour la première fois à ce festival. On a une force présence du Brésil et autres. Donc, il y a vraiment l'Afrique en miniature et la diaspora africaine en miniature dans la sélection officielle de ce festival.
26 ans qu'on espérait les talons d'or et ce ne sera pas encore pour cette fois. Pourquoi on n'y arrive plus? C'est la disette depuis 1992-17 avec Gaston Kabouré. Le Burkina n'a plus malheureusement soulevé le prestigieux trophée de l'étalon d'or de Yeninga.
C'est vrai, le festival organisé chez nous, on aimerait que aussi nos compatriotes remportent le trophée majeur. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Vous savez, ce FESPACO est appelé le FESPACO de la résilience. Donc le premier étalon que nous avons remporté, c'est l'étalon de l'organisation, le défi organisationnel, dans un contexte sécuritaire très fragile. On a remporté aussi l'étalon d'or de l'hospitalité, parce que quand les gens sont venus, ils se sont sentis à l'aise chez eux, très contents, les gens appréciés, ils sont partis. Donc c'est d'abord les deux premiers défis qui sont là avant de passer au volet artistique et technique. En ce qui concerne le volet artistique, ce n'est pas seulement au niveau des fictions longs métrages qu'il faut voir la chose. Moi, je vois le verre à moitié plein. Parce que déjà, en 2005, le film Tassouma de Sanou Kolo avait remporté les talons de bronze au FESPACO. En 2015, le film L'œil du cyclone de Sékou Traoré a remporté l'étalon de bronze. Et cette année, nous avons remporté l'étalon d'argent avec Tirade et Apolline Traoré. Avant cette année, on peut aussi voir dans la catégorie long métrage documentaire où ce sont les Burkinabés qui se sont succédés sur le podium. Deux éditions d'affilée. En 2019, c'était Aïcha Boro Chloé avec le Loup d'or de Baloui qui a remporté le premier prix. En 2021, c'était Sanou Moumouni Dulecha qui a remporté le premier prix avec son film Gadere Nocturne. Donc c'est la première fois qu'en deux éditions consécutives, vous voyez le même pays qui se succède sur le plateau. Et la catégorie documentaire n'est pas l'une des catégories des moindres.
Autre constat que l'on fait, au niveau de la sélection officielle cette année, un seul long métrage burkinabé a été donc sélectionné. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une baisse de niveau chez nos réalisateurs burkinabés?
Non, pas tout à fait. Parce que quand vous regardez l'édition de 2021, il y a eu un seul long métrage qui a été retenu sur 18 films, c'est les 3 Lascars. Cette année, c'est un seul long métrage sur 15 films. Il y a 3 films en moins. En 2019, on avait 2 ou 3 longs métrages en compétition. Cela ne s'explique pas par le baisse de niveau ou l'insuffisance de la production. Non, c'est un festival panafricain. Donc, il concerne l'Afrique et la diaspora africaine. Donc, il faut voir le maximum de films qu'on peut prendre, c'est 20 dans la catégorie long métrage de fiction. À des moments donnés, il faut qu'on retrouve, comme je l'ai dit, un échantillonnage de l'Afrique et de sa diaspora dans la sélection officielle. Donc, parmi les meilleurs, on prendra les meilleurs. On ne va pas seulement prendre les films burkinabés, mettre dans la catégorie.
Qu'est-ce qui peut être fait pour un cinéma burkinabé compétitif à nouveau?
Si on veut vraiment avoir plus de chance, moi je pense qu'il faut mettre l'importance sur la formation. Parce que à un moment donné, le Burkina était au sommet des sommets parce qu'on avait une école de référence de cinéma en Afrique et tout le monde venait se former au Burkina et tout le monde partait du Burkina pour faire du cinéma. C'est vrai que nous avons l'ISIS à nos côtés, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre plus de moyens, il faut renforcer les capacités de cet institut-là, de telle sorte qu'on puisse former des cinéastes de haut niveau pour pouvoir entrer dans la compétition national et international. Il faut former les jeunes cinéastes, même les anciens, pour les permettre de se recycler, pour donner des bourses d'études aux jeunes pour aller se performer ailleurs.
Les internautes, ils sont un peu frustrés parce que, au regard du racisme dans son pays envers les subsahariens, le trophée ne devait pas lui être décerné.
Moi, je dis que, en fait, cinéma en particulier, l'art en général, n'a pas de sexe, n'a pas de religion, n'a pas de frontières, n'a pas de race. Le cinéma, il est universel. Et donc, le jury part sur cette base qui dit que le cinéma ne transcende les frontières, transcende les clichés. Et donc, on part sur cette base pour octroyer le prix. On ne part pas sur la base de la xénophobie. Moi, je pense que le jury a fait un très bon travail. Et les Tunisiens sont des gens civilisés. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quelqu'un comme Taha Cheria, qui est fondateur, créateur du journal cinématographique de Carthage, un défenseur du FESPACO, il a milité aux côtés de Samuel Ousmane de Timothée Bassori pour que le FESPACO se tienne à Ouagadougou. Donc ce monsieur, nous on lui rend hommage. D'ailleurs, son effigie sur le site du FESPACO, si vous arrivez, vous allez voir une caricature. Les propos du président ne sont pas forcément les propos de Youssef Chebbi. Youssef Chebbi est un artiste, un créateur. Il a une vision qui va plus loin que la vision très réduite des gens qui veulent s'aimer la haine et la division entre nous les Africains. Voilà comment je vois la chose. Le jury allait au-delà de tout cela pour primer l'art, pour primer la création artistique, pour primer le travail esthétique de quelqu'un.
Monsieur Abraham Bailly, merci.
Merci à vous.
Abraham Bailly, critique de cinéma, répondait aux questions de Judith Traoré. Excellent après-midi à vous et merci de votre constante fidélité. Ce journal qui s'achève a été réalisé par Adama Konaté à la retransmission Facebook Chalda.
Radio Omega, l'info en direct.